sommes le 16 mai, troisième jeudi du mois déjà.
Déjà.
Eh bien, comme le temps passe, mais ceci dit, vous n'avez pas profité le mois dernier de l'émission de Claire-Elisabeth, l'instant bien-être, pour cause de quoi on était en congé, hein, je crois.
Enfin, j'étais en congé.
Oui.
C'est ça.
Il y en a qui sont vernis. Hein.
N'est-ce pas, hein?
N'est-ce pas? Et du coup, ben voilà, la voici, la nouvelle émission du mois de mai. En mai, fais ce qu'il te plaît, paraît-il. Mais si vous vous engagez à ne plus vous laisser ronger par la nostalgie, telle est la thématique de cette émission pour ce mois, Claire-Elisabeth. Tout va bien, nickel?
Ah oui, tout va bien. Je suis super contente de vous retrouver, de te retrouver aussi, d'être au micro de Fréquence Mistral. C'est vraiment génial de vous retrouver. Et effectivement, pour ce mois de mai, très très bonne intro avec ce fameux « Fais ce qu'il te plaît hein. ». C'est ce qu'on est censé faire, en tout cas, même si le temps n'est pas forcément tout à fait de la partie... Enfin, c'est assez yo-yo en ce moment, du moins par ici. Il n'empêche que je voulais un peu accompagner cet élan de printemps qui s'installe progressivement, on va dire. Et je voulais, en fait, vous proposer d'installer, vous aussi, ce même élan de légèreté au cœur de votre vie, en rapport à celle-ci, ainsi qu'envers vous et les autres. Et c'est pourquoi je voulais vous suggérer aujourd'hui de travailler à travers le challenge bien-être du mois, et bien de ne plus vous laisser ronger par la nostalgie, mais d'oser penser à l'avenir avec positivité, sérénité et confiance, chose qu'on a tendance à ne pas forcément faire lorsqu'il y a de la nostalgie en nous, et avant justement de pouvoir vous proposer des solutions et mettre en place des astuces aussi pour pouvoir reprendre le contrôle sur vos émotions, vos pensées et donc votre vie, je vous propose de faire un petit point sur ce qu'est la nostalgie, en tâchant de la définir un petit peu, parce que on sait à peu près ce que ça veut dire, mais c'est important quand même de refaire le point dessus. Alors la nostalgie, c'est un sentiment de regret et d'attachement au sujet des temps passés. Ça va aussi bien concerner des relations avec des personnes, un rapport avec un lieu ou encore d'autres souvenirs, des choses auxquelles en fait on va accorder une sensation particulièrement agréable et positive, bien que ces temps passés soient souvent liés à une douleur psychologique causée par leur perte en fait, hein. Parce que finalement le fait de nous rappeler à ce souvenir, ce sont des souvenirs généralement heureux qui vont nous procurer une sensation de plaisir, de bien-être, de douceur, comme je vous le disais, une sensation agréable et positive, mais comme on ne l'a plus puisque c'est quelque chose de perdu qui est déjà passé et auquel on ne peut plus se rattacher clairement dans le présent, eh bien il y a ce sentiment de perte et donc du coup ça engendre parfois de la souffrance. Alors ce sentiment est tout à fait naturel, il est provoqué par des gestes ou des situations assez précis qui vont alors rappeler ce souvenir heureux. Ça peut être, bah tiens, en écoutant telle musique, je me souviens avoir eu cette conversation avec telle personne ou avoir été en présence de cette personne. Tiens, je vais retourner sur les terres de mon enfance, par exemple, ce genre de choses. Et ça va raviver des souvenirs, des choses que l'on a passé, du temps qu'on a passé et qui est généralement heureux. Ça va engendrer de la nostalgie parce que du coup, on a cette petite mélancolie par rapport à, ah oui, c'était bien, cette époque, ce moment-là, cette conversation que j'ai eue, ce temps que j'ai passé, ce lieu était agréable, etc. Alors en soi, la nostalgie n'est pas excessive ni alarmante parce qu'elle n'est pas un sentiment intense, même si elle s'accompagne souvent de tristesse. Malgré tout, elle peut devenir problématique et dérangeante dans notre vie, surtout à partir du moment où elle va nous empêcher d'avancer dans notre vie, c'est-à-dire que nous allons être dans un état d'esprit de « je suis en train de vivre uniquement à travers mon passé, dans mon passé, je raccroche tout et je raccorde tout à mon passé ». À partir du moment où elle nous enferme dans une sorte de bulle où il n'y a plus que le passé qui compte et plus le présent, en nous isolant du coup et en nous coupant de toutes sortes de vie actuelle qui nous permet pourtant d'être dans l'instant présent et qui nous coupe également de toute notion de possible sur ce qu'il reste à advenir. Et donc du coup, cette petite pensée qui va être un peu en arrière-plan, on va dire, où du coup il y a ce petit pédalo qui est là et qui va dire non mais de toute façon à quoi bon, c'était tellement mieux avant, hein, on le dit souvent ça de toute façon pour des tas de raisons hein, aussi bien personnelles que relationnelles ou encore professionnelles ou même au niveau de la société dans laquelle on vit, c'était mieux avant, on pensait autrement avant, l'économie, la politique, le contexte social, tout était mieux avant et donc du coup on va uniquement se raccrocher à ce passé là plutôt que d'essayer de construire un avenir qui puisse être égal ou peut-être meilleur, hein, puisque tout reste à construire. Du coup, c'est vrai qu'il y a cette possibilité de pouvoir créer quelque chose de neuf qui soit encore meilleur que ce que l'on a déjà vécu. Alors, la nostalgie, malgré tout, elle a quand même des bienfaits. Qu'il s'agisse de la peur, de la colère ou de la tristesse, on a déjà dit, toutes les émotions, et peu importe leur degré d'intensité, elles existent initialement pour nous protéger et nous préserver. C'est un mécanisme de la part de notre inconscient qui va nous permettre justement de réagir en fonction des situations que l'on rencontre. Et à la base, si ces émotions existent, comme je vous le disais, c'est uniquement pour pouvoir nous protéger et nous préserver. Reprenant l'exemple de la peur, on l'avait abordé lors d'une chronique au sujet des émotions, justement la gestion des émotions, je crois que c'était en juin dernier. Et en fait, on avait évoqué cette partie de la peur, hein. La base, la peur est là pour nous permettre d'avoir ce petit coup d'adrénaline qui va monter en nous et nous permettre de surmonter des choses qui sont un peu compliquées. Par exemple, je suis dans la rue, je me sens peut-être suivie par quelqu'un ou je me sens pas en tout cas en sécurité. Je vais avoir un peu la peur qui va me permettre de marcher plus vite que d'habitude, qui va me donner le réflexe de prendre mon téléphone peut-être pour avoir l'occasion d'appeler quelqu'un en cas de danger, pour pouvoir guetter, avoir les sens vraiment aiguisés, on va dire, pour pouvoir justement réagir en cas d'attaque. Mais par contre, donc là, ça me permet de survivre. Par contre, si ma peur devient excessive et est assez extrapolée, je dirais comme par exemple la peur de la foule, l'agoraphobie, le fait d'avoir peur des araignées, le fait d'avoir peur de sortir, comme je vous disais, pour l'agoraphobie, etc. Il n'empêche que là, c'est une peur qui va nous emprisonner et qui va nous porter préjudice parce que du coup, elle va avoir un impact négatif sur notre équilibre de vie. Donc, à partir de ce moment-là, elle devient excessive, donc il faut réagir. C'est pour ça que à la base, les émotions sont toutes positives, donc les quatre piliers, les quatre fondamentaux des émotions, ce sont la joie, la tristesse, la colère et la peur. Après, il y a plein de degrés d'intensité diverses, donc c'est ce qu'on appelle aussi des nuances. À partir du moment où elles vont nous poser problème et prendre trop grande importance dans notre vie, eh bien forcément, c'est là qu'il va falloir réagir parce que il y a danger finalement. On n'est plus, ces émotions n'existent plus dans le but de nous protéger, mais dans le but du coup de nous conditionner à nous couper de quelque chose qu'il vaut mieux réparer plutôt que fuir. Je sais pas si c'est relativement clair du coup ce que je dis. Qu'en penses-tu ?
On prend la fuite.
Vous prenez la fuite, donc c'est pas clair. Mince. Non, ne fuyez pas. J'ai des solutions.
Je suis focalisé sur ça en fait. Donc,
non, il y a des solutions. On va les voir.
Courez vite.
Courage, fuyons, n'est-ce pas ? Donc en fait, il en est de même avec la nostalgie, qui n'est ni plus ni moins qu'une nuance, un degré d'intensité spécifique de la tristesse, qui, par sa présence dans notre vie, à un moment donné, à un moment spécifique, nous invite en fait à comprendre le message qu'elle cherche à nous faire passer. Et c'est-à-dire que notre inconscient, du coup, cherche à nous faire passer lorsqu'on ressent la nostalgie par rapport à un souvenir, et qui va donc nous permettre de corriger ce qui pose problème pour ne pas subir cette nostalgie par la suite, ni lui donner la possibilité de prendre une trop grande place dans notre vie. Donc ce qui est important de retenir par rapport à ce que je viens de dire au niveau des bienfaits de la nostalgie, c'est qu'en fait, elle va symboliser des messages spécifiques de la part de notre inconscient. Ces messages, il y en a quatre. Ça peut être soit un manque ou un besoin affectif. Ça peut être l'envie d'actualiser ou de réactualiser des liens avec son enfance, son pays, ses origines. Ça peut être le besoin de se reposer ou d'exercer des activités. Donc ça, je fais en rapport avec les vacances, par exemple. Hein, la nostalgie des vacances, c'était peut-être du coup ce besoin de repos que je peux ressentir actuellement qui me manque. Et cette nostalgie, du coup, je me dis, punaise, c'était trop bien de pouvoir me reposer, me prélasser, faire des activités qui me plaisaient, de pouvoir ne pas être engluée finalement dans un rythme un peu métro, boulot, dodo, comme beaucoup d'entre nous peuvent vivre. Ou encore, ça peut exprimer aussi le besoin de communication, de relations sociales, de liens avec les autres aussi, parce que peut-être que effectivement à ce moment-là, ce souvenir que j'ai, c'était bien quand je pouvais sortir, boire un café, rentrer en conversation avec des personnes que je ne connaissais pas, et puis on finissait par aller manger un bout ensemble, et puis on se retrouvait assez régulièrement, et puis aujourd'hui je ne connais plus tout ça, du coup je suis en manque de cette situation, et donc du coup c'est la communication et l'ouverture aux autres qui peut me manquer. Donc ça, ce sont les quatre messages, je dirais, assez principaux au niveau de la nostalgie lorsqu'elle se manifeste. Et lorsqu'en fait on va mettre le doigt sur le manquement, le besoin qui est révélé par la présence de la nostalgie, eh bien nous nous donnons l'opportunité de pallier ce manquement, ou en tout cas ce besoin, et on s'offre la possibilité également de pouvoir le dépasser. De cette façon, l'avenir, et notamment le fameux avenir meilleur et plus beau, peut devenir accessible et surtout possible. Il y a vraiment cette particularité-là avec la nostalgie, c'est de se dire, ok, ce moment était bien, j'ai vraiment adoré, alors je sais pas, ça peut être aussi les années lycée ont été mes meilleures années, ça va être avant 30 ans, ça allait pas, mais depuis 30 ans, depuis que j'ai 30 ans, ça va super bien, mais aujourd'hui j'ai 40 ans et je sens que je décline et que ça va pas, je décline dans le sens aussi moral, hein, c'est pas forcément en termes physiques, santé, etc., ça peut être aussi juste une perception. Alors ce qui est intéressant, c'est d'essayer de voir le contexte dans lequel se raccorde, se rattache ce fameux souvenir, de comprendre pourquoi à ce moment-là j'étais bien et pourquoi aujourd'hui je ne le suis pas. Qu'est-ce qui est différent finalement entre cette période et aujourd'hui ? Et c'est ça qui va vous donner les indications sur les fameux 4 messages principaux que la nostalgie a pour vocation de vous diffuser, de vous inviter à comprendre et à cerner.
C'est comme un petit coup d'impulsion.
Exactement. Exactement, parce que ça permet de prendre conscience et de réagir après à ce moment-là. Si tant est qu'on soit dans la dynamique et dans la capacité aussi de trouver les éléments de réponse à ces messages qu'on nous envoie. Donc ce qui est important aussi, c'est de réussir à comprendre le rôle que joue finalement la nostalgie dans notre vie. À la base, elle va relier la connexion émotionnelle à la mémoire d'un vécu qui est en capacité soit de faire rire, soit de faire pleurer. Pleurer, pas forcément de tristesse, hein. Ça peut être pleurer de regret aussi. Oh là là, c'est fini, c'est dommage, j'en suis triste aujourd'hui. Elle conduit cette nostalgie à souvent en fait à l'incapacité de profiter du moment présent qui, comme je vous le disais, ne pourra jamais être aussi bien que ce qui a été passé. Donc il existe différentes raisons qui expliquent la présence et la persistance de cette nostalgie dans notre vie, à plus ou moindre degré d'intensité, je dirais. Il y a d'abord le fameux réconfort qu'apporte la bulle du passé. C'est un peu comme la zone de confort à la base dont on parle un peu régulièrement. Oui, je prends toujours le même chemin pour aller au travail, je mange toujours la même chose au restaurant, je vais toujours dans le même restaurant. Je me crée en fait une certaine routine et en fait c'est ça qui va me placer dans une sorte de bulle de zone de confort qui me permet en fait de me sentir en sécurité parce que c'est quelque chose que je connais. Sauf que, comme on l'a déjà évoqué à travers de nombreuses chroniques, c'est que de pouvoir sortir de sa zone de confort, ou en tout cas de pouvoir l'élargir, c'est intéressant parce que ça vous donne l'occasion de progresser, d'évoluer, de vous découvrir et peut-être même d'intégrer de nouvelles idées et de nouveaux projets, de nouvelles manières d'être aussi, de vous faire de nouveaux avis. De nouveaux amis aussi, ça peut être l'occasion voilà d'une plus grande ouverture et c'est important aussi pour pouvoir évoluer. Et le petit bémol justement de cette fameuse nostalgie, c'est qu'elle a tendance à nous raccrocher constamment à quelque chose que l'on connaît davantage qu'à quelque chose que nous pourrions éventuellement créer par la suite. C'est pour ça que c'est rassurant, c'est pour ça que c'est réconfortant. Au moins, on sait ce qu'on avait à l'époque. Je ne sais pas ce que je peux avoir plus tard, mais en tout cas, je sais que j'avais ça. Oui, mais sauf qu'à un moment donné, pourtant, ben je ne savais pas que je pouvais avoir ça, puisque ce qui est passé, à un moment, a été un avenir, puis un présent, avant de devenir un passé. Je ne sais pas si là, du coup... on me suit.
C'est une histoire de machine à remonter le temps.
Exactement, c'est tout à fait ça. Et pourtant, on n'a pas tendance à vraiment l'intégrer, cette notion-là. Et on n'a pas conscience que l'avenir, donc la journée de demain, finalement, va devenir notre présent et par la suite, un passé. Donc c'est pour ça qu'on peut aussi être dans une autre dynamique et pour avoir, on va dire, une nostalgie qui soit intéressante, exploitable et peut-être même enrichissante, eh bien, au lieu de se focaliser sur le passé, focalisons-nous sur le futur. Pour pouvoir nous provoquer des souvenirs heureux et qui nous correspondent. Voilà, donc ça c'est encore une autre dynamique. Et c'est vrai qu'en plus, ce qui est assez compliqué par moment avec la nostalgie, je dirais, c'est que, en fait, on va le revivre hein, constamment dans la tête, enfin constamment, selon certainement certaines situations, des moments précis. Mais quelquefois, on peut vraiment être focus hein, sur l'aspect du passé. On peut vivre pleinement que dans le passé, en ne pensant que aux années qui se sont écoulées, qui était meilleur, etc. Quoi qu'il en soit, on peut avoir cette sensation de plaisir, de bien-être, du fait que c'était agréable, que c'était même positif, alors que lorsque l'on vivait le moment à l'instant présent, eh ben en fait, ça l'était pas du tout. Et c'est assez paradoxal, hein, parce que du coup, on a un aspect de la nostalgie qui est amplifié par un idéal, une perception idéale que l'on peut avoir du passé qui, sur le moment, lorsque nous le vivions, eh bien, n'était pas aussi idéal que ça, malgré tout. Donc ça, c'est l'une des premières raisons qui explique la présence et la persistance de la nostalgie dans notre vie. Ça va être le réconfort qu'apporte cette bulle du passé, puisque c'est quelque chose que l'on connaît, et donc ça me permet d'éviter de penser à l'avenir que je ne connais pas, qui me reste à créer, et qui finalement, dont je suis responsable en fait. Parce que ça veut dire que si l'avenir n'est pas plus beau ni meilleur que le passé, ça veut dire que c'est de ma faute. Donc là, il y a la notion de remise en question et la notion de responsabilité de ce que je fais et de ce que je ne fais pas qui rentre en considération. Et c'est vrai que c'est plus facile de se mettre dans une bulle de réconfort plutôt que de se remettre en question. Donc il y a d'un côté cette raison, et puis l'autre, qui va peut-être être davantage aussi inconscient, c'est le refus des émotions et donc la non-faisabilité du deuil du passé. Parce qu'en fait, à partir du moment qu'un événement est passé, une situation est passée, qu'une rencontre est passée, etc., il y a cette notion de deuil, c'est-à-dire de renoncement. C'est fait, je ne peux plus agir dessus. Combien de fois on vous le dit, de toute façon, je l'ai dit, je ne peux pas revenir en arrière. Je l'ai fait, je ne peux pas revenir en arrière. Et donc, il faut réussir à renoncer au passé qu'on ne peut pas modifier. Alors, même si les émotions sont inéluctables pour la réalisation du deuil du passé, avec notamment le passage du déni à la colère, de la colère à la peur, puis de la peur à la tristesse, pour enfin arriver à la phase de l'acceptation qui va conduire au renoncement du passé, si au départ elles sont refoulées, eh bien le deuil, ou du moins la pacification, je dirais, avec ce qui s'est passé autrefois, ne va pas pouvoir se réaliser. Et donc par conséquent, comment voulez-vous que je puisse me montrer plus enjouée vers l'avenir et moins nostalgique du passé si je n'ai pas réussi à renoncer à ce qui s'est passé au passé? Voilà, donc c'est vraiment une question de perception, encore une fois, où finalement, si j'arrive à faire le deuil de ce qui s'est passé, mais le deuil, ça veut pas dire oublier, attention, hein. C'est un peu comme le deuil d'une personne, finalement. C'est pour ça que le mot est particulièrement fort. C'est juste accepter. Accepter ce qui est, et l'acceptation passe par le fait de laisser passer à un moment donné la colère et la tristesse. Derrière la colère se cache la tristesse, de toute façon, hein. Et une fois que la tristesse a été levée, on arrive en phase d'acceptation et de se dire, bon, bah, c'est ainsi. Ces meilleures années, elles ont été, voilà, exceptionnel pour moi, eh bien, à moi de faire en sorte que les prochaines années soient encore meilleures, ou si ce n'est au moins égales, et du coup de reproduire. Mais pour ça, il faut que je puisse renoncer au fait que ce qui est passé est derrière moi, et que maintenant, il me reste tout ça à l'avenir, en fait, à réaliser. Donc, concrètement, on peut se poser un petit peu la question, comment faire pour ne pas me laisser envahir par la nostalgie qui risque de court-circuiter mon avancée dans la vie ? C'est un petit peu ça l'objectif, on va dire, de cette chronique. C'est certes de comprendre le rôle de la nostalgie. Alors, il y a la petite nostalgie et puis la plus grosse nostalgie qui va, du coup, vous poser problème, comme on disait. Et il existe, en fait, différentes manières d'y arriver. Et pour ça, en fait, je vais vous proposer des astuces, des techniques qu'on utilise dans le développement personnel et davantage aussi dans le coaching. Parce que effectivement, dans les accompagnements que je peux proposer, il y a cet aspect souvent de nostalgie. Et c'est ce qui va empêcher justement d'être heureux aussi, hein. C'est la notion du bonheur. La notion de la nostalgie engendre la question et la quête du bonheur. Alors, en premier lieu, ce que je peux vous proposer pour pouvoir réussir à vous distancer au niveau du souvenir qui engendre cette nostalgie, c'est de pratiquer un exercice qu'on a certainement déjà évoqué. C'est l'exercice du cinéma, que vous connaissez peut-être déjà si donc vous vous intéressez à la PNL et si vous avez écouté quelques différentes autres chroniques, donc la PNL, programmation neurolinguistique. L'idée, en fait, ça va être de vous installer dans un fauteuil, dans un canapé, et de pratiquer une petite série d'abord de cohérence cardiaque, donc 4 à 5 secondes de respiration, d'inspiration. Vous allez bloquer votre respiration, puis vous allez expirer, vous allez le faire sur une série de 3, 4, 5 respirations, ce qui va vous amener de la détente. À partir du moment où vous êtes détendu, vous allez fermer les yeux, imaginez que vous êtes dans une salle de cinéma. Elle est entièrement vide, il n'y a que vous. La salle est entièrement éclairée, l'écran aussi, hein, l'écran est très lumineux, et vous restez dans la lumière. En aucun cas, vous êtes plongé dans le noir, hein, vous n'êtes pas isolé face à un écran lumineux. Vous êtes juste face à cet écran qui est devant vous, et vous êtes face à lui, en tant que spectateur ou spectatrice. Et sur celui-ci, en fait, vous allez projeter le souvenir qui engendre initialement le sentiment de nostalgie. Vous allez le voir, vous allez l'observer uniquement pour ne plus être acteur ou actrice dans ce souvenir, mais tout simplement spectateur ou spectatrice. Ce qui va forcément engendrer déjà une certaine distance par rapport à votre souvenir. Ensuite, en continuant toujours les respirations qui sont calmes et apaisantes, vous allez décider de flouter, commencer par flouter l'image qui est sur l'écran. Ensuite, vous allez lui retirer ses lumières vives pour petit à petit remplacer l'image colorée par du noir et blanc, par exemple. S'il y a du son, celui-ci va devenir plus sourd et va être réduit, un peu comme quand vous baissez le son de l'autoradio dans la voiture. Et c'est comme ça que votre souvenir projeté sur l'écran de cinéma va se retrouver impersonnel face à vous et que vous allez vous sentir vraiment à l'écart de ce souvenir. Ah oui, ce n'est plus qu'un film qui se déroule sous vos yeux. Une fois que vous avez réussi à réaliser ce travail, vous allez pouvoir, tout en continuant de respirer toujours, hein, parce que le but est de se détendre au maximum, vous allez réduire la taille qui est initialement imposante de l'écran du cinéma. Petit à petit, en floutant encore davantage l'image, hein, toujours en réduisant encore le son, vous allez aussi réduire l'écran qui va passer de la taille d'un écran de cinéma donc relativement grand quand même, comme une taille d'une carte postale finalement, quelque chose que vous pouvez tenir dans la main. Et une fois que vous l'avez dans la main, vous allez l'accrocher sur le mur de votre histoire, parce que faut bien comprendre que nous ne pouvons pas et nous ne voulons pas nier que ce souvenir fait partie de la personne que vous êtes, nous souhaitons seulement en réduire l'impact limitant dans votre évolution. C'est ça qui est important. Quand la nostalgie a une trop grande importance dans votre vie, elle vous empêche d'évoluer. Donc nous, l'idée, c'est vraiment de limiter cet impact-là pour pouvoir continuer à évoluer et à se donner des opportunités nouvelles qui puissent nous permettre à un moment donné de nous dire « Ah oui, mais il y a aussi cet événement-là qui est positif et qui me donne un sentiment de satisfaction, de bonheur, etc. » Donc c'est pourquoi vous décidez ici et maintenant de placer ce souvenir spécifique parmi tous les autres qui font la personne que vous êtes, et non plus en dehors des autres. Il n'y a plus que ce moment-là, ou cette période-là, ou cette personne-là, cette relation, ou ce lieu qui est au-dessus des autres. Non, il fait partie du tout. Et c'est ça qui est important pour réussir à réduire l'impact limitant du coup de la nostalgie.
Très bien, on vous laisse quelques minutes dans votre salle de cinéma et le temps d'écouter un petit titre très nostalgique, Abramour.
Ah bah parfait.
Trip on Love, et puis on revient tout de suite sur Fréquence Mistral avec bien sûr la suite de cette émission et Claire Elisabeth.
See me somewhere if you have.
Et nous sommes en direct pour ce 16 mai de l'an de grâce 2019. Et il est l'heure, si vous nous prenez en cours, cette émission a commencé depuis déjà quelques minutes. Depuis 9h10, c'est l'instant bien-être avec la thématique du mois. Ici, je m'engageais à ne plus me laisser ronger par la nostalgie. On retrouve Claire Elisabeth. Donc, on était dans la phase de visualisation dans cette fameuse salle de cinéma où l'écran se rétrécissait et puis l'image devenait un peu plus sépia, noir et blanc. Et on va passer à la pratique des bonhommes allumettes.
Effectivement, oui, tout à fait. Donc là, en fait, on est en train d'énumérer quelques techniques qui peuvent nous aider à nous détacher de certains souvenirs qui ont tendance à nous donner trop de nostalgie, qui ont un impact trop limitant parce qu'on est trop enfermé dans le passé. Effectivement, il y avait cette fameuse technique de la visualisation avec la salle de cinéma qui permet de se distancer avec le souvenir en le rendant plus impersonnel finalement, pour finalement se dire que ce n'est qu'un film qui fait partie de ma vie, pour éviter de me retrouver engluée et enfermée là-dedans. Alors avec cette pratique au niveau des bonhommes allumettes, elle est assez rigolote, je dirais. C'est une pratique qui est plutôt ludique et qui, vous verrez, une fois que vous l'avez fait avec un premier exercice, vous allez avoir pas mal d'inspiration pour la suite et vous retrouverez à en faire une dizaine de bonhommes d'allumettes parce que finalement, le subconscient travaille beaucoup. En fait, c'est effectivement une pratique qui est intéressante pour couper symboliquement. En fait, c'est vraiment, voilà, on travaille beaucoup sur la symbolique. Tout lien qui va vous attacher au souvenir heureux qui vous remplit de nostalgie. C'est une méthode qui a été inventée par Jacques Martel. C'est un Québécois. Nous le pardonnons pour cette faute. Non, je plaisante. Et qui fait appel aux capacités, amis québécois, si vous nous écoutez, c'est pas du tout personnel. En tout cas, c'est une technique qui fait appel aux capacités du subconscient, qui en fait, lui, à la base, ne retient que ce qui est concrétisé, et c'est-à-dire tout ce qui est concrétisé. Je ne cesserai jamais de le dire au niveau du coaching essentiellement, hein, mais même aussi pour toutes sortes de développement personnel, quand on veut travailler sur soi ou même retenir des choses sur soi, eh bien, il faut écrire. Tout ce que vous allez poser en noir et blanc, noir sur blanc, c'est le subconscient qui va l'intégrer comme une vérité vraie, en fait. Il va le comprendre, il va le saisir. Et donc, à partir de là, le travail peut être fait pour casser, justement, ce fil de nostalgie qui est là. Donc, pour appliquer cette méthode, il faut un petit peu de matériel. C'est-à-dire qu'il vous faut une feuille blanche. Donc ça peut être une feuille de brouillon, hein, ça on s'en fiche, des crayons de couleur, un stylo noir, enfin comme vous voulez, et une paire de ciseaux. On va commencer par se dessiner soi comme un petit bonhomme allumette. Donc vous savez, les premiers dessins d'enfant, vous faites le rond pour la tête, les petits yeux là, un trait pour les yeux, un trait pour le nez, un trait pour la bouche, les cheveux bouclés ou pas bouclés, juste le dessus en pique, etc. Le tronc qui sera juste un trait vertical, les jambes et les bras. Et ça suffit largement. C'est pas la nécessité, n'est pas de se ressembler, de faire un autoportrait, pas du tout. Vous allez dessiner donc ce petit bonhomme allumette sur la partie gauche de la feuille, et en dessous de votre personne, du coup la personne qui est représentée, qui est vous, vous allez inscrire votre prénom et l'initiale de votre nom de famille. Sur la partie droite de la feuille, vous allez représenter le souvenir qui engendre le sentiment de nostalgie avec lequel vous voulez couper. Alors couper, ça veut pas dire oublier. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est comme la notion du deuil, c'est pas oublier, c'est juste réduire l'impact qui peut y avoir sur votre vie, en fait. Donc vous allez dessiner le souvenir ou dessiner la personne ou le lieu qui compose ce souvenir, et en dessous, vous allez écrire le nom de sa représentation. Donc soit le prénom si c'est une personne, la ville ou le nom du lieu si c'est une ville ou un lieu, ou sinon le souvenir en lui-même, comment vous le nommez. Et vous allez pouvoir par la suite tracer ce qu'on appelle donc un cercle de lumière autour de chacun de ces deux dessins. Ce cercle de lumière, en fait, c'est un soleil qui entoure le dessin, donc un soleil avec un trait plein, et vous allez faire le soleil d'enfant, là aussi, avec plein de petits rayons, dans le but de symboliser, finalement, toute la bienveillance que vous souhaitez envers vous, mais aussi envers ce souvenir qui cause tant de nostalgie et provoque tant de freins dans votre vie. Et puis vous allez dessiner un troisième cercle qui va englober les deux précédents cercles dans lesquels se trouve le dessin vous représentant vous et le souvenir qui est trop marqué de nostalgie. L'idée, c'est donc de symboliser ce que vous souhaitez de mieux pour vous deux, vous envers ce souvenir, dans ce qui vous unit. Alors ne vous focalisez pas sur une intention précise, l'idée principale est de rompre avec des liens toxiques, peu importe le moyen, hein, on n'a pas besoin de faire une phrase spécifique ou quoi que ce soit, pas du tout, c'est le subconscient qui va faire le travail. Nous, le rôle qu'on a, c'est de représenter par écrit, avec les fameux dessins. Enfin, on va saisir en fait une paire de ciseaux, et on va couper nettement chacun de ces liens. Ah pardon, non, je vous ai pas parlé des liens d'attachement. C'est quand même les plus importants. On va réaliser les liens d'attachement entre nous, le personnage qui est représenté, et le souvenir ou la personne ou le lieu. On va représenter, lier ces deux dessins-là par 7 lignes d'attachement qui sont les 7 chakras. Donc vous avez le chakra couronne, le chakra troisième œil, gorge, cœur, au niveau du plexus solaire, sacré et racine. On va les dessiner et c'est une fois qu'ils sont dessinés, une fois que donc les deux dessins sont reliés, qu'on va s'armer de sa paire de ciseaux et qu'on va couper nettement cette feuille, ce qui va représenter symboliquement le fait que l'on coupe les liens qui nous unissent entre soi et le souvenir qui nous pose problème. On va terminer par soit jeter au feu les deux parties de la feuille, soit les jeter à la poubelle, peu importe. En tout cas, ce qui compte, c'est de renforcer la symbolique du fait de ne plus être relié au souvenir qui cause une nostalgie qui est destructrice. Donc c'est une pratique qui implique activement le subconscient et qui va permettre de modifier aussi sa propre attitude envers ce souvenir et cet événement. C'est ce qui va nous aider à réussir à nous en détacher. Voilà, donc ça c'est une pratique assez ludique. Quand vous la démarrez, vous commencez par le souvenir, puis après souvent vous allez représenter l'émotion qui en découle. Ah oui, c'était bien d'être avec cette personne, et le fait d'être avec cette personne, vous allez le représenter, puis vous allez refaire l'exercice et couper pour ne pas, encore une fois j'insiste, non pas oublier ou écraser ce que vous avez ressenti et du coup ne plus penser au positif, pas du tout, c'est juste pour ne pas rester enfermé dedans et vous dire que c'est possible de le revivre de nouveau.
Tu parlais de chakra, mais ça ressemble au yoga aussi.
Ben, c'est basé.
C'est ce qu'on utilise dans le yoga.
Au niveau de quoi? Les chakras ou le
troisième œil, tout ça.
Oui, oui, oui. Ben oui, effectivement. Donc ça, en fait, ce sont des parce que ce sont les symboles énergétiques en fait qui nous relient. Donc, par exemple, la gorge, c'est la communication, par exemple. Tout ça, ces chakras-là sont utilisés pour montrer le lien énergétique qui va nous relier avec la situation qui nous provoque de la nostalgie. Donc, effectivement, on va s'en servir. Si vous voulez jouer encore plus le jeu et être encore plus là-dedans, utilisez les couleurs. Comme, par exemple, pour la gorge, ça sera le bleu. Pour la communication, n'hésitez pas à utiliser des crayons de couleurs pour représenter sur votre dessin les chakras appropriés aux couleurs. Voilà. Ça peut être aussi beaucoup plus ludique, encore plus, et encore plus symbolique aussi.
Pour,
ça, c'est intéressant.
Pour le feu, faites attention, hein, ne vous immolez pas.
Non, on va éviter quand même, hein. Ouais. Ça serait quand même ballot. Quoique pour se détacher des souvenirs, ça peut être pas mal, mais bon, c'est un peu excessif.
C'est radical, là.
Oui, voilà, c'est ça, et nous, on veut pas trop du radical, justement. Il y a une autre technique aussi qu'on peut utiliser, qui est assez intéressante, c'est l'EFT. Je sais pas si tu connais, ou si vous, auditeurs et auditrices, connaissez. L'EFT, c'est ce que l'on appelle Emotional Freedom Technical. Donc, c'est une technique de libération émotionnelle. Je vous en parle de plus en plus de cette pratique parce que, à mon sens, elle est quasiment révolutionnaire, je dirais, dans le sens où elle offre la capacité à tout à chacun de reprendre le dessus sur ses émotions et son rapport aux choses et aux événements de la vie de manière absolument autonome. On n'est pas dépendant d'un thérapeute, quel qu'il soit. Il suffit de s'initier à la pratique pour que finalement celle-ci puisse être efficace. Donc il vous suffit, voilà, d'avoir quelqu'un qui puisse vous transmettre, vous avez aussi des vidéos, hein, sur YouTube qui existent là-dessus où vous pouvez comprendre le fonctionnement de la pratique, et après vous n'avez plus qu'à appliquer vous dans votre quotidien. Donc cette technique, elle va stimuler tout un ensemble de méridiens énergétiques qui sont basés sur la médecine chinoise traditionnelle. Et du coup, ne serait-ce que en commençant par là, ça va vous donner la possibilité de débloquer des émotions qui jusque-là restaient complètement coincées. Donc j'apprécie cette technique parce qu'elle vous ramène aussi à l'instant présent, à l'état essentiel si vous souhaitez rompre avec un lien destructeur qui vous ramène constamment dans le passé. L'EFT a cette faculté de vous ancrer à ici et maintenant. Donc ça, c'est très intéressant pour réussir justement à rompre avec quelque chose qui nous empêche de vivre dans l'instant présent, justement. L'instant présent qui est essentiel, je dirais. C'est pour ça qu'on va parler aussi de carpe diem. Le fait de se sentir actif dans sa propre vie, et donc acteur aussi de sa vie, ça va permettre de se connecter beaucoup plus régulièrement à l'instant présent et donc à vouloir faire de cet instant présent la véritable différence, plutôt que de ressasser le passé sans vouloir le faire évoluer d'une quelconque manière. Et puisqu'on ne peut pas de toute façon. Le carpe diem s'illustre aussi bien dans la pratique d'un sport que de la marche, dans des exercices de relaxation, de méditation aussi, de création. Tout ce qui suscite en fait votre pleine attention et concentration sur ce que vous faites pour vous recentrer et vous sentir pleinement présent à ce moment-là dans ce que vous faites. C'est ça qui est important. Au plus vous serez connecté à l'instant présent, au moins vous laisserez de la place à la nostalgie du passé. Même si le passé fait partie de vous et que vous l'appréciez, il n'aura pas un impact destructeur ou en tout cas ravageur dans le sens où il peut vous rendre, parce que ça peut conduire jusqu'à la dépression, hein, on n'en a pas parlé, mais effectivement, il peut y avoir un effet lorsque c'est trop problématique, lorsque ça prend trop de place, on peut aller jusqu'à la dépression. Et là, c'est difficile, beaucoup plus difficile pour s'en sortir seul. Là, ce sont des astuces que je vous propose pour réussir à vous reprendre en main en autonomie et vous responsabiliser par rapport à ça.
Et si on n'a plus aucune envie et motivation, ça veut dire que c'est trop tard? On est en phase de dépression là?
Non, c'est pas qu'il est forcément trop tard, c'est que du coup, il faut réussir à aller un petit peu plus loin et à se dire pourquoi je n'ai plus envie. Il va falloir chercher en fait qu'est-ce qui pourrait me motiver et qu'est-ce qui me démotive à l'idée de passer à l'action. Qu'est-ce qui me fait peur aussi, parce que dans ce manque de motivation là, ça peut être la révélation du fait que j'ai peur d'aller de vivre quelque chose d'encore mieux finalement. Et comment je vais être dans ce mieux? Il y a souvent ça. Hein, c'est comme dans la réussite, on parle beaucoup la peur de l'échec, mais il y a aussi la peur de la réussite qui existe. C'est plus tabou, on n'en parle pas forcément aisément, mais en tout cas ça existe. Donc là, l'idée, c'est peut-être dans ces cas-là, s'il y a vraiment plus du tout de motivation et plus du tout d'envie, là, ce que je recommanderais quand même, c'est plutôt d'aller se faire accompagner par quelqu'un qui puisse être neutre, objectif et booster, en fait, hein, finalement, qui pourra mettre un peu plus facilement le doigt sur ce qui bloque pour pouvoir enclencher un travail qui pourra par la suite se faire en autonomie.
D'accord.
Enfin aussi, j'ai envie de vous proposer de vous reconnecter à votre enfant intérieur, parce que finalement, comme on l'a dit un tout petit peu plus tôt dans la chronique, si la nostalgie elle existe, finalement c'est essentiellement par la capacité que nous avons à très naturellement idéaliser le passé. On a tendance à le magnifier, si, tout simplement. Hein. Nous ne gardons que les aspects les plus impactants. Et puisque le souvenir réel s'efface peu à peu, on va tâcher de se reconnecter à lui à travers nos sens. Et donc pour ça, on va amplifier, on va extrapoler, on va vraiment être dans l'exagération. Et il n'est pas rare, justement, que pour le refaire vivre, on va être dans un effet vraiment d'idéal. Alors qu'en fait, lorsqu'on l'a vécu, c'était pas si extraordinaire que ça sur le moment, en fait. Hein. Alors si au lieu finalement de poser un regard d'enfant qui voit tout en grand sur votre passé, eh bien vous posiez ce même regard sur votre présent dans l'idée de construire votre futur, en fait, votre avenir. C'est ça qui pourrait être intéressant aussi. C'est de réussir à renverser la vapeur, j'ai envie de dire. D'inverser la tendance.
Dans une précédente émission, tu avais déjà parlé de ça.
Ouais, l'enfant intérieur est quand même important.
On a l'impression, avec ce regard-là, que c'était ultra merveilleux, alors que finalement...
En soi, quand on l'a vécu, c'était pas si extraordinaire que ça. C'est plus là, justement, pour réussir à lui donner toujours autant de vie, eh ben, on va lui donner encore plus de sensations, encore plus d'émotions et ceci. Et du coup, il se retrouve particulièrement idéalisé et trop, quoi. Et c'est ce qui provoque, du coup, ce sentiment de nostalgie. Ce qui peut être intéressant, c'est de recontextualiser, du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, réussir à recontextualiser le souvenir, de le replacer et de le comparer à actuellement. Très bien. Alors, quelle est la différence? Quel est le point commun? Qu'est-ce qui fait que je ne me sens pas aussi enjouée que là quand je pense à ce souvenir-là? Et comment je peux faire pour y arriver? Voilà, c'est vraiment une construction étape par étape pour réussir à dépasser cette nostalgie et donc à tendre vers l'avenir plutôt que vers le passé. Et puis en dernier point aussi, c'est d'exprimer ses émotions, parce qu'on l'a vu, c'est beaucoup le refus des émotions qui pose problème, qui engendre la non-faisabilité du deuil par rapport au passé. Donc qu'il s'agisse de vos peurs qui vous incitent du coup à vous réfugier dans des schémas passés mais rassurants parce qu'ils sont connus, hein, la fameuse bulle, ou qu'il s'agisse de votre tristesse voire même de votre colère, le fait d'extérioriser vos émotions va vous permettre de les libérer Donc, peu importe le moyen d'expression, hein, que ce soit à travers la danse, à travers l'écriture, à travers le fait de discuter, de se confier à quelqu'un, le fait de faire de la musique, peu importe. Le tout, c'est que vous trouviez un moyen d'expression qui vous corresponde et qui va vous permettre de ne pas garder à l'intérieur de vous ce qui vous fait ruminer et par conséquent ce qui vous ronge de l'intérieur. Parce que du coup, ça a tendance, lorsqu'on est rongé par l'intérieur, de l'intérieur comme ça, ça a tendance à engendrer un impact assez conséquent sur notre état d'esprit qui peut donc, comme je vous le disais, aller jusqu'à la dépression. Donc l'idée, c'est de ne pas laisser ce sentiment-là prendre le dessus à l'intérieur de nous et de l'extérioriser pour s'en débarrasser finalement. Se débarrasser de la nostalgie, de l'émotion négative que ça engendre, et non pas de se débarrasser du souvenir en lui-même, j'insiste encore. Et pour ça, pour illustrer tout ça, il y a vraiment une citation que j'aime beaucoup, beaucoup, parce qu'elle illustre vraiment tout ce que l'on vient de dire, c'est « ne pleure pas parce que c'est fini, souris parce que c'est arrivé ». Et rien qu'en ça, vous avez déjà compris en fait toute la dynamique de cette chronique. L'objectif finalement l'intérêt, je dirais plutôt, de quitter cet état de nostalgie pour finalement en faire quelque chose qui soit porteur et non pas qui soit limitant dans notre évolution.
Très bien, eh bien c'est clair. Et justement, si vous voulez réécouter cette émission, elle sera probablement en ligne, croisons les doigts.
Problème technique.
D'ici quelques heures sur le site de Fréquence Mistral. Et ce qui est arrivé aussi, c'est un bouquin que j'ai entre les mains, 28 jours pour positiver, par une certaine Claire-Elisabeth Coursier. Ça me dit quelque chose.
C'est bizarre, hein, le nom ça résonne, mais impossible de remettre qui c'est.
C'est ton clone peut-être, non ?
Peut-être, hein, en tout cas, du coup ce clone a eu une très bonne idée. Alors pour expliquer un petit peu l'idée de ce bouquin, je pense que vous vous en souvenez, surtout si vous êtes auditeur et auditrice particulièrement fidèle de Fréquence Mistral, et surtout les troisièmes jeudis du mois. Et bien du coup, en fait, nous avons réalisé dans le courant de fin d'année dernière, une émission sur le fait de râler, de ruminer, de se plaindre, qui était issu en fait d'un challenge que j'avais proposé sur les réseaux sociaux, qui était un défi de réussir à ne pas râler et à ne plus ruminer, à ne plus se plaindre pendant 30 jours. Et donc en fait, à l'issue de ce défi-là et à l'issue de cette chronique-là, je me suis dit, ce serait quand même bien de pouvoir en proposer une sorte de guide pratique et qui pourrait être utile pour les gens. Donc ce qui était assez intéressant dans la rédaction de ce bouquin, c'est que finalement, il y a cette partie, on va dire, astuce et technique que vous pouvez mettre en application, ces feedbacks qui sont intéressants aussi par semaine après semaine, hein, donc c'est en 28 jours, vous avez 5 jours, les 5 premiers jours de la semaine qui sont consacrés à des astuces, à des techniques que vous pouvez mettre en place. Le 6e jour, c'est une fiche outil qui vous permet de travailler plus en profondeur au niveau de votre introspection pour comprendre le pourquoi, du comment. On va revoir un peu l'importance dans ce livre, l'importance des émotions, hein, comme pour tout, qui ont tendance à conditionner notre vie. Et le 7e jour de chaque semaine qui est consacré à un feedback, à un retour finalement sur ce que vous avez vécu, ce qui est à améliorer, ce qui est à garder, etc. Et il y a une évolution au cours de ces 4 semaines qui sont proposées pour vous amener finalement à trouver en vous des propres ressources que vous pouvez appliquer très facilement dans votre quotidien pour éviter de râler, de ruminer et d'être contaminé par les aspects négatifs sur lesquels on peut être confronté régulièrement tout au long de la journée. Voilà.
Très bien, et ce guide bouquin sera disponible quand ?
Alors là actuellement il est disponible sur Amazon parce que du coup il était en réponse à un concours de développement personnel qui a été vraiment l'occasion finalement de me mettre à ce travail qui était un travail assez conséquent. Donc là pour l'instant il est exclusivement sur cette plateforme là, mais du coup très bientôt puisque le concours est passé, je vais pouvoir le présenter à des maisons d'édition pour pouvoir justement le diffuser au plus grand nombre sans être limité au site Amazon. Donc je vous tiendrai au courant bien sûr, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour ça, ou du coup je vous tiendrai au courant aussi à travers ces chroniques sur Fréquence Mistral pour vous en dire un peu plus. Ça sera au cours de l'été, je pense que je pourrai réussir à prendre du temps et à démarcher les maisons d'édition.
Très bien, voilà une bonne chose faite, 28 jours pour positiver, très prochainement. Ainsi s'achève cette émission.
Eh oui, déjà, oui. Ça passe vite, hein.
Allez, on se quitte, on se retrouve le mois prochain.
Oui.
Avec Claire-Elisabeth, 3e jeudi du mois, pour l'instant bien-être. On se quitte avec ceci. Au revoir Claire-Elisabeth.
Au revoir à tous. Please, please forgive me.
So